Salut à toi, ô mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit.
À tous les voyageurs dans l'âme, nous vous proposons une émission qui vous dessine des paysages dans les oreilles. Croque Voyage, une émission spéciale voyage sur le 99.9 de Radio PFM.
Salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen.
Aujourd'hui, nous partons en Inde en compagnie de Julie et Yadine.
Bonjour Julie, alors nous te recevons pour parler de ton voyage en Inde du nord et du nord-ouest.
Alors, Yadine, bonjour Carole.
Il faut savoir que l'Inde, c'est 6 fois la France. C'est un pays très diversifié avec beaucoup de religions et qu'il faut compter 22 langues officielles sans compter les nombreux dialectes qui ne sont pas répertoriés. Alors Julie, tu nous as préparé un petit texte qui nous donne tes impressions concernant l'Inde. Alors nous t'écoutons.
En Asie, mais en dehors de l'Asie, un ovni parmi tous ces pays, entre le bouddhisme occidental et l'islam du Moyen-Orient, l'Inde reste inclassable. Certains guides touristiques parlent de destination ultime. Dans quel sens? La pire ou la mieux? En tout cas, la plus extrême. Extrême par rapport à nous, occidentaux, avec notre bagage social, culturel, éducatif, nos us et coutumes. C'est l'Inde du « love it or leave it », aime-la ou quitte-la. Elle provoque, choque, indigne, révolte, même révulse. Parfois aussi, elle émeut, elle transcende et porte au-delà des limites que l'on s'était nous-mêmes imposées. Il faut y aller à nu, hors de ses schémas mentaux, de sa propre façon de réagir dans son propre pays. On peut attendre le bus 6 heures sans mouveter. Ce même bus peut nous arrêter au milieu d'un désert, dans les soleils himalayens, pour la nécessaire et tant attendue pause pipi. Et là, on n'a pas le choix. On le fait à l'indienne. On s'accroupit devant tout le monde et on s'en fout. C'est ainsi. L'état d'esprit dans lequel il faut arriver en Inde n'est surtout pas celui de la pitié. Il est fondamental pour une acceptation de ce qu'on lui découvre, de simplement se poser en observateur. Voir les choses telles qu'elles sont. L'Inde, c'est aussi la densité. L'Indien est un animal non pas social mais collectif. Il est incapable de penser individualité. C'est peut-être mieux ainsi.
ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਵੇੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਖੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਵੇੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁੱਖੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਥੇਰਾ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਥੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਗੇੜੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜਾ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਥੇਰਾ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਥੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਗੇੜੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ ਪਾਈਆਂ
Nous venons d'écouter Mésopouria, très à la mode dans les boîtes à Bombay.
Alors Julie, tu nous as parlé de l'Inde en général. Bon, j'ai éprouvé la même chose que toi. C'est vrai que c'est un pays très hétéroclite qu'on n'arrive pas à classer. Alors maintenant, si tu pouvais nous parler un petit peu des régions que tu as traversées. Tu as traversé donc le Ladakh, l'Himachal Pradesh, le Punjab et les rives du Gange. Alors au sujet de ton arrivée, tu es partie de où donc ?
Donc j'ai pris un avion directement de Delhi à Leh, qui est la capitale du Ladakh. À 3500 mètres d'altitude au fin fond de l'Himalaya. Et c'est donc collé, cette région, elle est collée au Tibet. Donc en fait, les gens qui vivent là-bas, ce sont des réfugiés tibétains. Donc cette région est une région bouddhiste. Il n'y a pas du tout d'hindouisme là-bas. Les faciès sont plutôt tibétains. Il n'y a pas de réel indien. Pas vraiment des Indiens. Et à côté de cette région-là, on a le Cachemire. Donc, c'est à forte influence aussi avec le Cachemire aujourd'hui.
Et alors, le Cachemire, c'est la région des musulmans, c'est bien ça ?
Voilà, donc le Cachemire est musulman. Donc, on commence à voir apparaître à Leh, au milieu des temples bouddhistes, des mosquées. Donc, voilà.
Ah oui, donc ça commence à... La religion musulmane gagne du terrain et il n'y a pas de conflit, parce que je crois que le Cachemire est une région avec beaucoup de conflits...
Il y a des conflits avec le Pakistan, à la frontière avec
le Pakistan. Oui, d'accord.
Mais donc, la région en elle-même, non, c'est simplement à la frontière.
D'accord. Alors, au sujet du Ladakh, tu m'as donc dit que ça se trouvait dans l'Himalaya, donc à 3500 mètres d'altitude. Et comment sont les paysages ? Parce que moi, je ne suis jamais allée du côté de l'Himalaya. Alors, si tu pouvais un petit peu nous en parler.
Alors, c'est un paysage qui est lunaire. C'est époustouflant. Il n'y a que des rochers, que des montagnes. Il y a très peu de végétation. La végétation passe seulement dans les villages, où il y a des cours d'eau, normal. Donc, très sec. Et puis, c'est rose, c'est jaune. Il y a des couleurs... assez prononcé par rapport à nous, nos montagnes. C'est ou blanc ou vert, ici en France. Parce que vert avec la végétation, ou blanc enneigé.
Mais là, c'est en altitude. C'est déjà à 3500 mètres d'altitude. Donc, c'est déjà assez rocailleux, quoi, forcément.
Ouais,
c'est... Et je voulais savoir donc, comment tu avais vécu l'altitude. Est-ce que c'est facile quand tu viens d'Arras, en fait ?
Alors, quand tu arrives là-bas, c'est assez difficile de s'adapter. Il faut, pendant 2-3 jours, pas trop bouger, marcher très lentement. Dès que tu fais un effort, tu le ressens, ton souffle est très court. Et puis, beaucoup de mal de crâne aussi. Voilà. Et par contre, quand tu redescends, tu as une pêche d'enfer pendant au moins une semaine.
À cause de l'oxygène, tu penses.
Voilà, tu as plein d'oxygène dans le sang.
D'accord. Et au sujet du Ladakh, donc, tu as eu l'occasion de visiter des temples bouddhistes ou bien,
oui.
Comment ça se passe ? Donc, les bouddhistes sont, je pense, très tolérants. Et...
Les bouddhistes sont très ouverts, donc tu peux rentrer comme tu veux dans leur temple.
D'accord.
Tu fais ce que tu veux, il ne faut pas mettre les pieds en face de Bouddha, mais autrement, il n'y a aucune règle spécifique. Donc, tu les vois régulièrement prier, etc. Même dans des monastères, je suis allée. Effectivement, ils t'accueillent à bras ouverts.
D'accord.
Et donc, les temples sont tous décorés, tous peints à l'intérieur.
Beaucoup de couleurs ou bien...
Beaucoup de couleurs, beaucoup de divinités représentées.
D'accord.
Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le bouddhisme, c'est que le message de Bouddha s'est raccroché à une religion plus ancestrale, donc qui a conservé toute cette série de divinités qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec le message originel de Bouddha. Voilà.
D'accord. Et c'est là qu'on voit aussi des petites banderoles de couleurs, les fanions,
les
petits drapeaux. Oui,
alors les petits drapeaux, ça c'est mis sur les maisons, sur le toit des maisons, c'est pour la chance.
D'accord.
Pour apporter la chance à la famille.
Les messages, c'est que pour la chance. Alors, les drapeaux rectangulaires.
Ouais.
D'accord, c'est que pour la chance. OK. Et au niveau des transports, comment tu as fait pour... tu dis que tu es redescendu de Leh, mais alors au niveau des transports, tu as eu la chance de prendre quoi
Alors, de toute manière, on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas de train. Donc, j'ai eu la chance de prendre un bus semi-de luxe, soi-disant.
C'est-à-dire, c'est quoi le luxe pour eux ?
À mon avis, luxe, ça ne voulait pas dire luxe. Parce que...
Il n'y a pas les toilettes dans le bus.
Ah non, non, ça c'est sûr. Donc tu redescends. J'ai mis 2 jours à redescendre du Himalaya. Et donc, premier jour, 16 heures de transport, le deuxième, 8.
Ouais.
Mais dans des conditions effrayantes. Effrayantes parce que la route, elle est minuscule. Elle n'est vraiment pas large. Elle est vraiment. Tracé dans la montagne, donc c'est un truc rapide, ils sont pas des chefs de la voirie, et donc très longue, et tu passes ton temps à croiser aussi des camions qui sont là pour approvisionner cette région-là qui est complètement enclavée. Donc sur des routes très étroites, tu croises régulièrement des gros camions, des d'autres bus, etc. Donc j'ai vraiment eu peur sur cette route pour ma vie. En même temps, le paysage est tellement beau que du coup, il faut regarder en dehors du bus. Mais même quand tu regardes en dehors, tu vois des camions en bas, des carcasses de camions en bas dans les vallées.
Ah oui, oui, c'est pas du tout rassurant, oui.
Non.
C'est ça la deuxième route la plus dangereuse du monde.
Oui, ouais, voilà. Un Américain à une pause, un Américain qui me dit ça. C'est la deuxième route la plus dangereuse du monde.
C'est très rassurant.
Déjà que j'étais pas rassurée, alors. C'est le pompon.
Je vois que tu vis dangereusement, en tout cas, Julie.
Ah ouais, j'ai pas eu le choix, hein, je savais pas.
Shri Bhagwan.
Donc, après tes deux jours en bus mémorables, tu t'es posé donc en Himachal Pradesh, tu es allé à Manali, c'est ça tu...
Oui, alors je suis allée dans un petit village qui est à côté de Manali, qui s'appelle Vashisht. Et donc, ce qui est assez surprenant à propos de cet endroit, c'est que quand je suis arrivée là-bas, on prend des rickshaws. Tu sais, c'est l'espèce de mobylette qui a un petit coffre à l'arrière où tu t'assois dedans.
Tu vois quoi, oui. Qui est bien bruyant, mais qui est très rapide en même
voilà.
temps. Oui.
Voilà, tu as l'impression qu'il va se casser, mais non,
ça
tu
tient
restes
bien.
Dedans. Et donc, je suis arrivée là-bas et j'ai vu sur le bord des routes plein de hashish, en fait. Enfin, pas de hashish.
Du cannabis.
Ouais, du cannabis,
oui.
Ouais. Et donc, ça pousse là-bas comme une mauvaise herbe.
Donc, c'est le royaume du pétard, là-bas.
C'est le royaume du pétard. Donc, t'as quelques Occidentaux qui restent un peu bloqués quelques temps là-bas. Mais du coup, il y a une ambiance qui est assez agréable, assez détendue.
D'accord. Et toi, t'en as profité pour en fumer un, non ?
Moi, j'en ai pas fumé, là.
Ok. Et qu'est-ce qu'il y a à voir, à part les pétards à fumer à Manali ? Il y a des choses intéressantes ou pas ?
Alors, il y a des sources d'eau chaude. Ça, c'est très sympathique. Il y en a une dans le village où j'étais, donc, qui était à l'extérieur, qui est au milieu du village, sur la place. Donc, il faut aller le soir, parce que la journée, il y a tous les enfants qui se baignent dedans. Et le soir, ils changent l'eau. Donc, dans ce cas-là, tu y vas. Et il y a aussi... Donc, les mêmes sources fournissent aussi deux bains séparés, où là, il y a bien les hommes et les femmes. Donc là, c'est aussi un endroit d'échange privilégié avec les femmes indiennes, puisqu'elles sont dans leur intimité et tu partages leur intimité aussi. Donc, c'est les seuls moments où j'ai pu réellement parler à des femmes. Le reste du temps, tu ne les vois pas dans les rues.
Ah oui, à ce point-là.
Tu les vois, mais elles sont toujours en train de passer, de faire des courses. Ou
toujours occupées, les femmes
toujours
indiennes.
Occupées.
Oui, c'est vrai que... Mais je ne sais pas, toi, ce que tu en as pensé des conditions de la femme en Inde, mais j'ai l'impression que c'est elles qui bossent plus que les hommes, là.
Ah, ça c'est sûr.
Oui. Sur les bords des routes, je sais pas. Enfin, moi j'en ai vu. Je sais pas toi. Je crois que c'est elle qui aide. Je crois que c'est la main d'œuvre la moins chère. Et à mon avis, c'est elle qu'on embauche le plus parce que bon, bah forcément, ça intéresse tout le monde d'avoir de payer moins cher. Et après, elles sont souvent à la maison, je crois aussi. Elles s'occupent tout le temps
de toutes les tâches ménagères, des enfants, etc. Mmh. Les hommes sont là pour le commerce, donc ce qui fait que. Je vais pas dire ils font rien de la journée, mais même dans les champs, on les voit, c'est les femmes qui travaillent. Hein.
Ouais, c'est toujours les femmes qui sont. Dis donc, tu as eu ce rare privilège d'être avec dans l'intimité des femmes, c'est pas évident parce que pour leur parler, bon, à part éventuellement de se retrouver dans un compartiment, dans un train pour pouvoir être entre femmes et parler, mais c'est pas toujours évident d'engager une conversation. J'ai pas eu trop ce privilège. En plus, moi, je maîtrise pas l'anglais. Mais ouais, t'as eu cette chance quand même.
Ouais.
Et elles t'ont parlé de leurs conditions ou bien
elles
ne peignent pas ?
Non.
Tu les connais pas assez.
Elles se rendent pas compte en plus, je pense.
Ah, ouais. C'est possible ça.
Elles n'ont pas le même niveau d'information que nous. Elles ont toujours vécu comme ça, quoi.
D'accord.
Et par contre, j'ai été choquée aussi par quelque chose, c'est le mariage forcé. Enfin, forcé.
Ça existe
arrangé.
Encore le mariage arrangé
oui, ça marche comme ça.
Et genre, vas-y, raconte-nous un petit peu.
Qui étaient modernes, donc qui avaient un magasin, etc., qui avaient quand même de l'argent, qui vivaient correctement. Et ils sont tous mariés par des mariages arrangés.
Même les gens modernes, alors.
Ah ouais, même les gens modernes. Après, peut-être pas vraiment la haute société indienne. Hein, mais,
alors, le mariage arrangé, donc c'est dès qu'elles sont petites filles, elles sont déjà mariées d'avance ou pas forcément ? C'est quand même pas en si bas âge.
Je sais pas à partir de quel âge les parents s'arrangent, mais en tout cas, les parents s'arrangent entre eux et... Il faut que leur niveau, la dot soit assez forte. Si jamais l'homme vient d'une famille riche, etc., il faut qu'il y ait équivalence un peu du pouvoir d'achat.
D'accord. Et ça fonctionne comme ça.
Ouais, ça fonctionne comme ça.
Il n'y a que dans les Bollywood où tout est parfait, je pense.
Ouais.
Et dans les films, hein, sinon, c'est même pas la peine d'en parler. D'accord. On va écouter tout de suite Sushila Raman.
Trust in me.
Continuons notre périple en compagnie de Julie. Donc, tu es allée ensuite dans le Punjab à Chandigarh. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu de Chandigarh, qui est une ville très à part, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Voilà, alors Chandigarh, effectivement, c'est pas vraiment l'Inde non plus, puisque c'est une ville qui a été entièrement construite par Le Corbusier, à la demande de Nehru. Mm-hmm. Nehru, on dit. Et donc, c'est une ville totalement construite en une seule fois. Et pensée à l'avance dans son intégralité. Donc, elle est l'organisation, pour vous décrire rapidement, elle est divisée en districts. Chaque district doit être indépendant. Donc, à l'intérieur, il y a toutes les infrastructures pour ne pas avoir besoin de sortir de son district. C'est quadrillé. Et les districts sont très étendus, parce que c'est toujours mêlé avec des grands espaces verts, ce qui fait qu'on a une impression un peu de ville déserte, parce qu'il y a plein d'endroits où il n'y a personne. Les rues sont très, très larges. Et même l'Indien le plus pauvre a au moins un vélo, parce qu'on ne peut pas à pied, elle est très étendue comme ville.
D'après les photos que tu m'avais montrées, c'est vrai que on dirait un petit peu une ville des années 70 en France, quoi. C'est très déroutant.
Oui, tout à fait.
Alors par contre, les Indiens ont une certaine fierté, enfin à Chandigarh, parce qu'il paraît que c'est la ville la plus propre de l'Inde, c'est
voilà,
ça?
Voilà, donc c'est la ville la plus propre, parce qu'il y a un système de tout à l'égout, etc. Elle est quand même adaptée. Elle a été pensée par un architecte français, donc...
Et donc, c'est une ville qui est vraiment pas, qui ressemble pas du tout aux villes indiennes que l'on pourrait, à quoi on pourrait s'attendre, c'est ça?
Oui, parce que je peux repartir sur le truc d'avant là.
Oui, vas-y. Prends la coupure.
Donc c'est une ville qui est très très propre et et effectivement du coup elle est en dehors un peu de toutes les autres villes parce qu'elle a un système de tout à l'égout. Et donc voilà, les Indiens sont très fiers effectivement, et c'est aussi une ville qui est très bourgeoise. Les Indiens ont beaucoup d'argent là-bas.
C'est plutôt des fonctionnaires, c'est plutôt des gens. Non, tu sais pas du tout.
Non, je sais pas.
C'est pas grave. Sinon, oui.
Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a très peu de touristes qui vont là-bas.
Ah, d'accord.
Parce qu'il y a seulement les amoureux d'architecture qui vont voir cette ville, autrement, elle a aucun intérêt. À part l'architecture, il y a
oui, il y a un musée de l'architecture d'ailleurs qui explique la construction de Chandigarh, je crois.
Ah oui, c'est fort possible. Ouais.
Mais qu'est-ce que tu as vu, toi, à Chandigarh? Vas-y.
Moi, je me suis promenée, j'ai regardé les bâtiments administratifs, etc., qui sont étonnants, c'est sûr. Quand on aime ça, l'architecture, ça vaut le coup.
D'accord.
Et donc, par contre, les Indiens sont très étonnés de voir des Occidentaux dans leurs rues. Hein. C'est là où j'ai été le plus regardée de toutes les villes que j'ai fait.
Ah, c'est marrant, parce qu'on s'attendrait plutôt à ce que ce soit... un endroit ouvert, quoi, où les gens ne te regardent pas comme un petit peu étant l'attrait touristique
surtout
du coin.
Surtout que c'est la bourgeoisie indienne.
Oui, c'est pour ça que je suis étonnée, parce qu'en général, ils ne sont pas trop regardants, quoi, la bourgeoisie indienne. Sinon, tu as eu l'occasion de visiter Rock Garden.
Oui, alors le Rock Garden, c'est un parc qui a été fait entièrement construit par Nekchand.
Nekchand, oui.
Et c'était un chargé de la voirie.
Un inspecteur de la voirie, c'est ça.
Inspecteur de la voirie, ouais. Et donc, il récupérait plein de choses émaillées, etc., des bouts d'assiettes, tout ce qui traînait dans les rues, il récupérait ça. Et il a construit ça dans un petit hangar. Enfin, il se cachait des yeux du public pour construire. Ah, oui. Il a fait plein de petites statues, il y en a des milliers. Et donc, ils devaient construire un parc. Quand ils ont découvert ce qu'ils voulaient mettre dedans, au début, ils m'ont interdit de construire son parc.
Oui.
Ils voulaient l'arrêter. Et finalement, après, ils ont reconnu que c'était de l'art. Et donc, aujourd'hui, c'est un parc.
C'est l'endroit l'un des plus visités, je crois, maintenant. Oui. Ben, c'est une belle revanche pour lui. Donc, il s'est amusé à faire des soldats en tesson, c'est ça, ou en briques, ou des animaux. Il y a vraiment de tout, en fait.
Ouais. Plein de soldats, d'animaux, de personnages, de femmes, avec même des bouts de bracelets, des petits bouts de bracelets, il fait les cheveux.
Ah, dis donc, c'est impressionnant. C'est un petit peu le facteur cheval indien, quoi, finalement.
Exactement.
D'accord.
Bon, on peut couper. Je me suis complètement...
Alors, tu as fini ton voyage sur les rives du Gange à Rishikesh, où c'est le temple des. Enfin, c'est même pas le temple, c'est l'endroit où les gens viennent dans les ashrams, c'est bien ça, si tu pouvais nous expliquer?
Oui, alors Rishikesh, c'est la capitale du yoga. C'est là où les Beatles sont venus faire une session yoga. Donc, du coup, ça fait la pub de cet endroit. Et aujourd'hui, il y a plein d'ashrams partout, avec. Plein d'occidentaux aussi illuminés qui se battent dans les rues en toge. Et oui, ils pratiquent le yoga là-bas.
Et toi, tu es allée à Rishikesh pour faire du yoga également ou bien...
À l'origine, oui, et puis finalement, j'en ai pas fait.
Tu as trouvé que c'était trop ashram pour touristes, c'était
ouais,
pas dans tes convictions en fait.
Exactement.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Rishikesh, enfin, qu'est-ce que tu retiens de cette ville?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première ville sainte sur le Gange. Donc, elle est vraiment aux sources du Gange. Elle est au pied de l'Himalaya. L'Himalaya commence juste derrière. Mm-hmm. Parce que d'ailleurs, c'est la première ville. C'est bien parce qu'on sort de la montagne. Et donc, il y a quand même une atmosphère dans cette ville où il y a plein de pèlerins qui viennent faire leurs ablutions. Ils viennent se baigner dans le Gange. Donc, on a une atmosphère aussi de sérénité dans la densité. Un peu de sérénité aussi.
Et le Gange est large à cet endroit ou bien
ouais,
c'est
il
pas...
est déjà large.
Il est déjà très large,
ouais.
D'accord.
Ouais.
Donc t'as dû, tu es allé sur les Ghâts. Les Ghâts, c'est les marches où il y a les ablutions, où les gens viennent aussi pour toutes les cérémonies, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, je n'y suis pas allée, non, parce que pour moi, je ne suis pas hindouiste.
T'as respecté cet endroit.
Je vais pas... Mais je me suis baignée dans le Gange, mais en amont.
D'accord.
Voilà.
Et alors, quelle impression, cette baignade dans le Gange?
C'est normal.
C'est sale, c'est pas trop sale comme endroit. Enfin, je veux dire, le Gange, avec tout ce qu'il y a de...
Ah comme c'est en amont, donc il n'y a aucune ville avant.
Ah,
donc,
d'accord.
C'est toujours gris, mais en fait, c'est boueux, quoi.
Mm-hmm.
C'est pas sale.
Comme une rivière, en fait. Prête. Je voulais savoir, au niveau de la cuisine, si tu avais repéré des plats qu'on n'a pas l'habitude de manger ici en Europe, ou bien des choses qui t'ont marqué. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu.
On mange beaucoup de lentilles, là-bas.
Oui.
Donc c'est le dal. Mmh. Et elles sont très bien cuisinées, elles sont excellentes. Après aussi, il y a tous les plats végétariens. Hein,
oui.
Comme ils ne mangent pas de viande, c'est vrai qu'ils sont une offre très diversifiée au niveau plats végétariens. Qui savent très bien cuisiner. Et c'est une cuisine qui est quand même assez lourde. Elle est assez grasse comme cuisine. Hein.
C'est à base de ghee, c'est ça, le beurre raffiné, je ne sais pas comment ils appellent ça. Base de beurre, donc... Enfin, je crois que c'est ça. Et après, au niveau des... Les plats sont souvent accompagnés de pain. Donc, il y a des différentes galettes, différents pains. Vas-y.
Oui, il y a le naan, il y a le chapati. Donc, effectivement, ils mangent toujours avec leur pain. Et alors, toujours de la main droite aussi, c'est important.
Oui, parce que la main gauche est impure, c'est ça?
La main gauche est impure. Oui. La main gauche, elle sert pour nettoyer après la scène, en fait.
Oui.
Donc, ils mangent... Même, il ne faut absolument pas toucher la nourriture avec la main gauche, même toi, en tant qu'occidental, parce que ça les choque.
Ah
hein.
Oui. D'accord, donc parce qu'à Bombay, moi, j'avais pas eu cette impression du tout. Bon, Bombay, on aura l'occasion d'en parler à la prochaine émission. Mais à Bombay, ils étaient plus tolérants. Comme on est occidental, ils étaient plus ouverts là-dessus. Mais toi, c'est vrai que t'es allé dans des coins, peut-être, où les gens sont pas forcément habitués à voir des gens, des occidentaux. D'accord, donc tu as mangé ça. Tu m'as dit des lassis, c'est ça?
Alors, les lassis, ce sont des yaourts liquides que tu parfumais à tous les fruits, qui sont excellents, rafraîchissants. C'est une bonne alternative.
Et très bon pour les intestins.
Voilà.
Après les épices. Et alors, tu as bu... Enfin, moi, j'en ai bu. Tu as bu aussi du chai tea, je pense.
Ouais, tu bois ça tout le temps.
Ah oui.
C'est le truc que tu prends dans toutes les échoppes.
Sans problème, d'ailleurs.
Ouais, c'est un thé à base de lait.
Le lait est bouilli et dedans, tu as les épices. Donc, il y a clou de girofle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Cannelle.
De quoi?
Cannelle.
Cannelle, oui. Cardamome, je pense. Après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Du poivre noir. Enfin, c'est un assortiment. Gingembre, oui, Carole. Et qui est donc du lait qui est bouilli pendant une vingtaine de minutes avec du sucre. Et des glaces, t'as eu l'occasion d'en manger des glaces, non?
Non.
Parce qu'en fait...
J'ai essayé de rien manger à base d'eau.
Tu en as mangé à base d'eau?
Non, j'ai essayé de rien manger à base d'eau.
D'accord.
Faut éviter.
Les glaces, normalement, sont au lait. Parce que l'Inde est une région où les vaches sont sacrées,
ouais.
Et puis forcément, donc il y a beaucoup de produits laitiers qui sont bons, qui sont consommables. Et moi, j'avais goûté des kulfis, des glaces au lait d'amande. C'est délicieux. Bah, on n'a pas trop parlé de l'hindouisme finalement, parce qu'on a parlé que c'était la capitale du yoga à Rishikesh. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des animaux sur les routes?
Ah, bien sûr. Donc, les vaches, oui. Les vaches partout dans les rues, parce qu'elles ont un propriétaire, elles ne sont pas comme ça dans la nature perdue. Hein. Ah, elles ont un propriétaire, ouais, bah oui, forcément. Mmh. Et donc elles se baladent la journée, le soir le propriétaire les récupère. Et donc c'est absolument sain, on n'a pas le droit d'y toucher, on ne peut même pas la pousser pour la déplacer quand elle est en plein milieu de la route.
D'accord.
Pour contourner, voilà, donc il y a ça, des singes aussi, beaucoup de singes.
Des singes.
Dans le nord, il y a beaucoup de singes.
D'accord,
ouais.
On n'est pas vu tant que ça.
En bande, ouais.
Ils viennent quémander auprès des gens.
Ils viennent même piquer dans les appartements.
C'est pas vrai.
Ouais, ouais, ouais.
Des singes chapardeurs. D'accord. Et puis des corneilles. Enfin, moi, dans les villes, il y avait beaucoup de corneilles aussi. Ouais. Je ne sais pas, non. Et les vaches, c'est impressionnant. Elles mangent même du plastique. Elles sont sur des routes hyper fréquentées à Bombay. Personne ne les embête.
Elles sont toutes cool. C'est le seul truc qui est cool en Inde.
Oui. Parce que moi, j'avais trouvé que c'était très bruyant, l'Inde, en fait. Je ne sais pas, toi, dans
le Nord. Très bruyant, ouais. Très dense, plein d'odeurs, plein de choses. Il fait chaud. Moi j'étais à la période de la mousson, donc heureusement qu'il pleuvait, j'étais même contente qu'il pleuve parce que c'était Love your body,
let's make... Qu'est-ce qui se passe?
Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio PFM, Croque Voyage, aujourd'hui en Inde avec Yadine et Julie. Vous écoutez Ravi Shankar. Ravi Shankar, c'est le plus connu des joueurs de sitar. C'est lui qui a popularisé la musique indienne dans l'Occident dans les années 50. Et dans les années 60, le son du sitar attira les musiciens rock. George Harrison, des Beatles, devint élève de Ravi Shankar et joua du sitar sur plusieurs de ses morceaux. Là, je vous propose d'écouter un poème, Magnifique est mon pays. C'est un poème indien anonyme. Magnifique est mon pays. Je suis né malvenu dans un pays surpeuplé, mais j'ai partagé ma demeure avec l'exilé. Je vis dans un village prisonnière de mes champs, mais à la recherche de mes épices, l'homme a découvert un univers. Je pars ma maigreur des guenilles et de la misère, mais j'ai fait don au monde du luxe des fines soieries. Le feu de mon repas, je l'allume avec la bouse du bétail, mais j'ai appris à l'homme l'abstraction de l'algèbre. J'ai grandi sans instruction, sans musique, sans chanson, mais mon sitar syncopé a transporté de joie les nations. Je suis entouré d'enfants, l'esprit sous-alimenté, et j'ai donné à l'homme sa première philosophie. Je fabrique des chaussures qui ont chaussé 3 continents entiers, mais je commence tout juste à me tenir sur mes pieds nus. On me donne beaucoup de noms dans une multitude de langues, mais j'ai adopté un nom que les étrangers m'ont donné, India. Je suis triste, mais je suis heureuse. Je suis.
ಸುಂದರಂ ರಜತಾದ್ರಿಶೃಂಗ ನಿಕೇತನಂ ಸಿಂಜಿನೀಕೃತ ಪನ್ನಗೇಶ್ವರ ಅಚ್ಯುತಾನನ ಸಾಯಕಂ ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ಧ ಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಿವಾಲಯೈರಭಿವಂದಿತಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈಯ
Julie, merci beaucoup de ta participation à Croque Voyage.
Et nous vous laissons maintenant en compagnie de Souchela Raman avec le titre Maya. Nous nous retrouverons le mois prochain pour continuer notre périple en Inde. Pour ceux qui souhaiteraient réécouter cette émission, vous pourrez la réécouter le jeudi 15 mai à 21h, et le vendredi 16 mai à 23h. Voilà, merci. Pour ceux qui souhaiteraient également proposer d'autres émissions de voyage ou qui souhaiteraient participer à l'émission, vos propositions sont les bienvenues. Vous pouvez contacter PFM. Merci.